C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4 minutes past 9, Radio London Time, the station with kicks on 266.
20 août 1983, Radio Caroline renaît après 3 ans de silence. C'est la seconde fois que la station triomphe de circonstances qui auraient pu la faire disparaître définitivement. En 1972, déjà, elle était revenue sur les ondes après 4 ans d'absence. Il y a donc l'histoire des radios offshore et l'histoire de Radio Caroline. En effet, depuis 1964, son fondateur fait preuve d'une ténacité qui force l'admiration. À son lancement, c'est vrai, la station était une affaire très rentable. Mais dans les années 70, elle a connu des jours difficiles. Et même si maintenant Ronan O'Reilly a retrouvé des bailleurs de fonds, le statut juridique complexe de l'entreprise génère forcément une certaine instabilité avec laquelle il faut composer pour pouvoir continuer. À plusieurs milliers de kilomètres de la mer du Nord, on trouve aussi un personnage emblématique de l'histoire des stations de radio flottantes, Abi Nathan. L'Israélien a réussi à surmonter de nombreuses difficultés pour faire vivre The Voice of Peace, et la station est devenue un élément incontournable en Israël. Mais nous sommes à une période charnière. Certes, ces deux radios ont un public, mais le monde des ondes évolue. En Grande-Bretagne, des radios locales commerciales ont été autorisées depuis plusieurs années. En Irlande, le gouvernement semble tolérer l'existence de radios pirates terrestres. La Belgique a aussi connu quelques radios pirates, et en France, le monopole de la radiodiffusion a disparu. The Voice of Peace et Radio Caroline sont-elles les derniers vestiges d'un monde radiophonique qui appartient au passé, ou sont-elles encore d'actualité ? Hormis ces deux stations, en effet, aucune autre tentative de relancer une radio flottante ne s'est durablement concrétisée.
It's Caroline on 319 with Elton John and Daniel, and before that it was Fleetwood Mac and a song called Dreams. What a relaxing morning we had reading the Sunday papers. Thanks to all of you who came out to see us this morning, and also thanks for the papers as well. A special thanks to Sir Robin. Thank you for your drop in the ocean. It was much appreciated. It's now 2:10, and this is Caroline on 319 with a song from Spandau Ballet.
Le projet de relance de Radio Caroline, qui a mis plusieurs années à se réaliser, a suscité l'intérêt, en particulier auprès d'un certain John Kenning. Depuis quelques années, Kenning participait à certaines radios pirates terrestres émettant depuis l'Irlande. Et il eut l'idée de créer une radio offshore depuis un bateau ancré dans les eaux territoriales irlandaises. Son idée était très simple. Le gouvernement irlandais ayant jusqu'à présent toléré ces radios, on pouvait imaginer qu'il était possible de rester dans les eaux territoriales, mais il serait aussi possible de déplacer le bateau dans les eaux internationales en cas de changement d'attitude des autorités. Un tel modèle offrant a priori une certaine stabilité. Kenning ne va pas tarder à s'associer à Paul Rusting, un ancien DJ et ingénieur du son de Radio Caroline. Et ensemble, ils se rendent à New York à la rencontre de Roy Lindo, un commercial de la société Music Media Radio qui s'était initialement engagé dans le projet de relance de Radio Caroline aux côtés d'autres investisseurs américains. Dans un premier temps, rien ne se concrétisa. Kenning fonda alors avec Crispian St. John, lui aussi ancien de Caroline, Radio Sovereign, une station pirate terrestre londonienne qui fut pionnière dans la programmation dite Oldies ou Gold et qui débuta ses émissions le 10 mai 1983. Mais Roy Lindo n'avait pas abandonné l'idée de lancer une radio offshore au large des côtes britanniques. Et après son éloignement du projet de relance de Radio Caroline, il décida de mener à bien sa propre entreprise et reprit contact avec Kenning et Rusling. Ils réussirent à convaincre un homme d'affaires irlandais qu'il pourrait vendre suffisamment d'espace publicitaire pour qu'une radio maritime soit viable. L'idée de départ était de lancer 2 programmes parallèles. Radio Star, orienté Top 40, et Radio Wave, se positionnant sur les gold, comme on dit dans le métier. Le mot Star fut vite abandonné au profit de Laser. Le 27 août 1984, alors que Caroline était de retour sur les ondes depuis une semaine, un chalutier quitta le Lowest Off dans le Suffolk en direction de la Floride pour y être équipé. Il avait été rebaptisé MV Communicator et immatriculé au Panama. Les responsables américains du projet souhaitaient apporter deux innovations à cette radio. D'une part, ils voulaient se dispenser d'un mât de transmission et utiliser des ballons gonflés à l'hélium pour maintenir l'antenne. Ce système avait été expérimenté dans le passé par The Voice of America. Par ailleurs, ils souhaitaient que toute la programmation musicale soit enregistrée sur cartouche pour se passer de l'utilisation des disques vinyles qui s'avèrent compliqués, voire impossibles par gros temps. Mais les investisseurs du projet Radio Wave se retirèrent. Le MV Communicator n'accueillerait donc qu'une seule radio. Le 17 novembre, le navire quitta l'Amérique en direction de l'Irlande avec à son bord une équipe de DJ américains. Cela rappelle un peu le projet Swinging Radio England de 1966. Durant le voyage, plusieurs désistements compromirent le projet. Mais finalement, le 8 décembre 1983, le MV Communicator arriva à Newross dans le comté de Westford pour des travaux complémentaires. La curiosité de certains journalistes l'obligea à reprendre le large, mais il revint discrètement quelques jours plus tard après le départ des indésirables. Le 17 décembre 1983, grâce à une antenne filaire installée entre les mâts, une discrète première transmission fut effectuée.
Touch your stern.
À l'aube du 20 décembre, le navire quitta Newross et prit la direction de l'estuaire de la Tamise. Il jeta l'ancre deux jours plus tard en face de Margate. Mais il fut pris dans une violente tempête qui l'obligea à garder ses moteurs en marche pour pouvoir maintenir sa position. La curiosité des journalistes fut à nouveau éveillée et quelques articles de presse évoquèrent l'arrivée de ce nouveau bateau. En alerte, les autorités réussirent à intercepter des communications entre le personnel à terre et l'équipage. Du coup, le 29 décembre, le MV Communicator quitta son lieu de mouillage pour s'éloigner davantage des côtes britanniques, craignant que les autorités n'organisent un arraisonnement. Il jeta l'ancre un peu au sud du Ross Revenge de Radio Caroline. La première tentative d'émission utilisant la technique du ballon gonflé à l'hélium eut lieu le 19 janvier 1984. En prenant de l'altitude, le ballon tira l'antenne. Mais lorsque l'émetteur fut mis en marche, la tension électrique fit fondre la corde reliant l'antenne au ballon qui se détacha et dériva. Il aurait terminé sa course accroché au clocher d'une église en Belgique. Le système n'avait tenu qu'une trentaine de minutes, permettant la diffusion d'un programme non-stop constitué de titres des Beatles. Le 30 janvier, un deuxième essai de diffusion fut effectué avec le second ballon qui était disponible sur le navire. Il s'éleva à plus de 106 mètres. La transmission sur 411 mètres, 729 kHz avec un émetteur de puissance modeste dura toute la journée et se prolongea le lendemain. Mais le ballon s'échappa à son tour pour finir sa course sur une route dans la ville de Colchester. Plus tard, des rapports d'écoute permettront d'établir que les émissions furent entendues en Grande-Bretagne, en Irlande, mais aussi sur le continent, en France et en Allemagne. Un rapide examen permit d'établir que le câble sollicité par le vent s'était resserré autour d'un décroché de fixation. Ce frottement l'avait progressivement rongé et il s'était rompu, laissant filer le ballon, l'antenne quant à elle terminant dans l'eau. Les responsables durent admettre que ce système, s'il avait montré son efficacité en Méditerranée, n'était pas du tout viable pour la météo très dure de la mer du Nord. Côté du Ross Revenge, les vieux démons font leur retour et Caroline commence à nouveau à rencontrer des problèmes financiers. La radio avait pu redémarrer grâce à des bailleurs de fonds canadiens et à la promotion rémunérée de certains disques. Mais à la fin de l'année 1983, les financiers réduisirent significativement leurs contributions et la radio se trouva à nouveau à court d'argent au point de ne plus pouvoir payer l'équipage ni les DJ. À la fin du mois de janvier 1984, les premières publicités payantes devaient être diffusées. Caroline avait notamment décroché un contrat avec la Loterie nationale canadienne pour son jeu Loto 649. Aussi, lorsque le 20 janvier, une tempête s'acharna sur le Ross Revenge au point qu'il rompit son ancrage et dériva dans les eaux territoriales, forçant à arrêter les émissions, cela tombait plutôt mal. C'était d'autant plus malvenu que la nouvelle concurrente, Laser 730, était en pleine installation. Fort heureusement, le bateau put se dégager tout seul du banc de sable et regagner une position dans les eaux internationales près du bateau phare de Sankhead. Le lendemain, une nouvelle ancre lui fut apportée et il regagna son ancrage de départ. Les émissions purent reprendre. Caroline n'allait donc pas manquer son rendez-vous avec son premier annonceur, Loto 649.
Peter Frampton, Show Me The Way Live. Show Me was the track also from The Pretenders before that, from the album Learning To Crawl. Such a good boy, Carly Simon. Before the news was Fleetwood Mac and Dreams. Got to say hello to a couple of people. David Butcher from Norwich and Nicholas Eno, who's an American student studying medicine in France, in actual fact. So Nicholas running from France. He wants to know where to get a Caroline sweatshirt or a Caroline t-shirt. It's quite simple, Nicholas. All you do is write to Radio Caroline, New York, 11518, the US of A. I'll give that to you again. Radio Caroline, New York, 11518, the US of A.
Après la perte du second ballon à l'hélium, les bailleurs de fonds de Laser 730 durent admettre que ce procédé n'était pas adapté aux conditions météorologiques de la mer du Nord. L'investisseur principal, l'Irlandais Philip Smith, décida alors de ne plus injecter le moindre livre sterling dans le projet. Privé de nouvelles ressources financières, Roy Lindo fut contraint de fermer le bureau new-yorkais de la station et demanda à l'équipage de récupérer tout ce qu'il pouvait à bord du navire pour financer leur retour aux États-Unis. Mais Paul Rusling, l'un des promoteurs du projet, parvint à faire réaliser une antenne provisoire et un très faible signal fut émis par intermittence pendant 2 heures le 12 février 1984. Le 14 février, des essais reprirent et se prolongèrent pendant 5 jours. Voici ce que l'on a pu entendre le 16 février, un peu avant 10 heures.
You're listening to a special party or a test transmission live from the North Sea aboard the MV Communicator. These are the Stones.
I wanna say how it's gonna be. You're gonna give your love to me. I'm gonna love you night and day.
Au cours de ces tests, les DJ Black Williams et Johnny Lewis invitaient les auditeurs à correspondre avec la radio via une adresse à New York. Plus de 2000 courriers furent envoyés. Ceci persuada Philip Smith de reprendre les investissements, et notamment dans la construction d'un mât d'émissions conséquent. Un ingénieur américain, David Irving, qui avait auparavant notamment travaillé pour l'armée américaine, fut chargé de la conception. Et malgré les mises en garde, il décida que l'antenne serait assemblée à terre avant d'être transportée sur le bateau. Les divers éléments de la structure furent amenés dans le chantier de Kingsborough, dans l'Essex. Mais la police, bien informée, intervint le 16 mars, saisit le matériel et procéda à des arrestations. Il fallait à nouveau se procurer des composants. Mais cette fois-ci, ils furent directement acheminés sur le MV Communicator à la fin avril. Le 6 mai à midi, les émissions test débutèrent sur la fréquence 538 mètres, 558 kHz. Durant les 15 jours suivants, la station poursuivit ses essais de diffusion. Et sans que la moindre annonce ait été faite, elle débuta ses programmes le 24 mai à 5h du matin.
Good morning. I'm Rick Harris, and on behalf of David Lee Stone, Jesse Brandon, Steve Masters, Joe Young, Tim Levenseller, Bill Voigt, Dennis Legere, David London, Michael Wilson, and about four dozen other people, I'm pleased to introduce you to a brand new radio station, All Europe Radio, Laser 558. Broadcasting live from international waters on the MV Communicator, we promise to bring you at least 54 minutes of international hit songs each hour we broadcast. All hits, all the time. Plus, we'll keep you informed of the news of the world hourly. Again, speaking for all of us, welcome to Laser 558, where you're never more than a minute away from music. Starting now.
La radio accompagne son lancement en proposant t-shirts, posters et stickers. Sa programmation musicale Top 40, à peine interrompue par de brèves interventions des DJ, va immédiatement séduire. Et on retient facilement son slogan « You're never more than a minute away from music ». Interrogé en juin sur Channel 4 à propos de la nouvelle concurrente de Caroline, Ronan O'Reilly déclara que cela n'aura aucun impact sur la programmation ni le style de la radio historique, critiquant au passage une approche très agressive à l'américaine, manquant de subtilité. Mais la popularité de Laser 558 s'affirma, et durant l'été, la radio revendiquait près de 5 millions d'auditeurs. Il était difficile de mesurer son impact réel sur l'audience de Caroline, du fait que les enquêtes n'avaient pas le droit de l'inclure dans les sondages. Mais les radios locales britanniques voyaient leur audience baisser depuis l'arrivée de la nouvelle radio offshore.
Oh, I love that Motown stuff. Can't wait to do my first 60s Sunday since I have been back off of vacation. Join us tomorrow from 6 a.m. to 6 p.m. if you're in Great Britain, 7 to 7 if you're in the continental time zone, for 60s Sunday right here at Laser 558.
She lives in a big white house.
Times, mardi 7 août 1984. Un troisième navire pirate au large de l'Essex. Une intense rivalité est attendue sur les ondes après l'arrivée d'un troisième navire station de radio pirate au large des côtes de l'Essex. Radio Caroline et Radio Laser, qui émettent depuis des navires ancrés à 22 km au large de Walton-on-the-Naze, en eau internationale, sont désormais rejointes par un troisième navire, qui devrait diffuser Wonderful Radio London. Les stations se disputeront les parts d'audience des émissions pirates illégales et les recettes publicitaires nécessaires à leur financement. En privé, les dirigeants des deux stations établies craignent que l'arrivée de ce troisième navire n'entraîne une répression de leurs émissions par brouillage de leurs fréquences. Radio Caroline a repris ses émissions il y a un an après une interruption de 3 ans due au naufrage de son précédent navire lors d'une tempête en mars 1980. Radio Laser a commencé ses activités en mai dernier. Elle diffuse une programmation quasi ininterrompue de musique pop. Propriété américaine, elle vend de la publicité par l'intermédiaire des bureaux new-yorkais de Music Marketing International. Wonderful Radio London, à ne pas confondre avec Radio London de la BBC, était l'une des nombreuses stations de radio retirées des ondes par le gouvernement le 14 août 1967.
This is wonderful Radio London, where you're hearing things,
where you're hearing things.
Depuis le début de l'année 1984, les hommes d'affaires américains nourrissaient en effet le projet de relancer une radio offshore au large des côtes britanniques. Plusieurs noms circulaient, dont ceux de Don Pearson, ancien de Radio London et Swinging Radio England, et Tom Danaher, qui avait rejoint Pearson à Swinging Radio London et Britain Radio. Un troisième nom était cité, John England. C'est lui qui fut le plus loquace. Dans la presse spécialisée, il annonça la renaissance de Wonderful Radio London sous le nom d'appel WRLI, Wonderful Radio London International, donna le nom du navire, le Four Freedom et la date de début des émissions, le 14 août 1984 à 15h01. Radio London avait cessé ses émissions 17 ans plus tôt, le 14 août 1967 à 15h. England révéla aussi qu'une autre station serait lancée sur la même fréquence en soirée, VFG, The Voice of Free Gospel. Il ajouta aussi qu'une émission serait produite en Grande-Bretagne sous l'indicatif d'appel Radio London Top 40 Show pour être diffusée en syndication sur des radios américaines afin de générer des revenus et d'assurer une visibilité internationale à WRLI. La nouvelle radio devait recréer le son des 60s, passant les mêmes titres que son ancêtre. Des jingles pour les deux futures radios furent même réalisés par la célèbre société PAM à Dallas. Mais John England, qui ne tarissait pas de critiques à l'égard de Radio Caroline et Laser 558, qui selon lui manquaient de professionnalisme, commença peu à peu à admettre que Wonderful Radio London International ne serait peut-être pas en onde le 14 août 84. Un autre projet était aussi apparemment en gestation, Tennessee Sound, une radio entièrement consacrée à la musique country. L'un de ses principaux financiers, Andrew McIntyre, annonçant que la station pourrait être en onde avant l'automne, à bord d'un navire baptisé le MV General Lee. L'homme expliqua que Tennessee Sound allait aussi faire la promotion des artistes country anglais. Il semble évident que les navires de Caroline et Laser 558 ont recréé une émulation autour des radios offshore. Et même si le contenu des programmes diffusés par les différentes stations de radios autorisées s'est considérablement enrichi par rapport aux années 60, l'espace des eaux internationales suscite toujours la convoitise malgré les contraintes concrètes et l'adversité météorologique. Ce qui surprend à l'écoute de Laser 558 à cette époque, c'est l'absence totale de publicité à l'antenne. Pourtant, la station dispose déjà d'une confortable audience. Des journalistes se sont livrés à une estimation révélant que 15 000 livres par semaine environ étaient nécessaires pour maintenir la radio en onde. Qui sont donc les généreux bailleurs de fonds ? On a mentionné l'homme d'affaires irlandais Philip Smith, propriétaire d'un hôtel à Dublin. La presse va s'emparer de l'affaire et les spéculations vont commencer. Le London Evening Standard va même accuser un journaliste de la BBC d'être le représentant officieux à terre de la station, déclenchant une enquête de Scotland Yard. En fait, l'incriminé ne faisait qu'enquêter lui aussi sur le même sujet et il avait rencontré Roy Lindo, le représentant américain de Laser 558. Les publicités vont finalement faire leur apparition à partir du 1er octobre et simultanément, un club d'auditeurs va être lancé, le Communicator Club.
That was the tune The Old Cow Died Of by Zit City. Not by any stretch of the imagination a favorite band. Now here's what many consider to be one of the most significant discs to come out of America since 10,000 Maniacs. Novel features worth noting are it's flexible, goes round at 300 or more RPM, and comes in the unconventional sizes of 8 inches, 5 and a quarter inches, and 3 and a half inches. In spite of which it's a long player, because the 8 inch and 5 and a quarter inch discs are tested to 30 million plays. But perhaps the most significant fact is that in only 3 years, it sold more copies than Crosby's White Christmas and Haley's Rock Around the Clock added together. It's also sold more copies than any disc even remotely like it. However, enough of all that. Let's play the world's most popular floppy disk, Datalife by Verbatim. Oh, I forgot to tell you, you can't hear Verbatim's brilliance. You can only see it with a personal computer. Peace at last.
Datalife by Verbatim, the longest playing disc in the world.
All Europe Radio, laser 5x8.
On a l'impression d'être revenu presque 20 ans en arrière, à l'époque où Caroline connaissait ses premières concurrentes. L'autorisation des radios locales privées en Grande-Bretagne et l'apparition de quelques stations pirates terrestres en Irlande notamment, tout cela semble être balayé car le duel qui s'installe entre le Ross Revenge et le MV Communicator. Une bataille navale qui s'exprime sur les ondes. Même la presse, qui marche pourtant sur des œufs à cause du Marine Broadcasting Offense Act, s'intéresse aux deux bateaux. Preuve, s'il en était encore besoin, que l'histoire se répète, les problèmes de brouillage vont aussi faire leur retour. Caroline semble perturber la réception de certaines radios universitaires, notamment dans l'East Anglia, et Laser 558 brouille une radio irlandaise sur l'agglomération de Londres. The Daily Mail, mercredi 17 octobre 1984. Courrier d'un lecteur. Concernant votre article sur Jessie Brandon, animatrice de Radio Pirate, je pense qu'il est erroné de présenter les radios pirates comme des héroïnes de la libre entreprise dans un monde des ondes qui serait surréglementé. Les radios pirates enfreignent de nombreuses lois, notamment celles qui régissent l'attribution des fréquences radio aux diffuseurs légitimes. Ayant moi-même travaillé pour la radio universitaire, je suis témoin des problèmes rencontrés par mes collègues avec Radio Caroline, qui a réduit au silence entre 8 et 10 radios étudiantes. Ces dernières se sont retrouvées face à un dilemme. Changer de fréquence, une opération excessivement coûteuse avec un budget annuel de 500 à 1000 livres, ou enfreindre elles-mêmes la loi en augmentant leur puissance d'émission. Les radios pirates enfreignent également la loi en diffusant illégalement des contenus protégés par le droit d'auteur que les stations légitimes doivent utiliser moyennant des droits. S.G. Crouch, directeur technique, radio universitaire Raymer, Université de Bradford.
That's right, ladies and gentlemen, you're in for it tonight. Jessie Brandon back around with you, and as our special guest this evening, once again, the Dean of Rock and Roll. Paul Dean is up for the next hour to close things out here at Laser 558. We've been lost in music, along with Sister Sledge.
Lorsque la police néerlandaise arraisonna le Magda Maria de Radio Paradise le 1er août 1981, elle ne fit pas seulement taire une seule radio, mais mit un coup d'arrêt à deux autres projets, dont Radio Monique, une station qui devait diffuser un programme majoritairement axé sur la pop néerlandaise. Les démêlés juridiques interminables autour du Magda Maria poussèrent les promoteurs du projet Radio Monique à chercher un autre navire. À l'automne 1984, ils conclurent un accord avec Ronan O'Reilly pour diffuser à partir du Ross Revenge. Les investisseurs étaient belges et néerlandais, dont l'éditeur du magazine flamand Topic, mais aussi la société canadienne du loto 649 qui avait déjà investi dans Radio Caroline. Le 15 décembre 1984, la station historique qui utilisait deux fréquences, 576 kHz et 963 kHz, libéra la seconde et Radio Monique démarra des essais de transmission. C'était les DJ de la Haute-Mer, 34e épisode.